Avant que le petit Trianon, où nous arrivons maintenant, ne soit édifié, Louis XV venait se promener en ces lieux où existait une ménagerie, un jardin botanique et le charmant pavillon français que vous pourrez voir. Il jouxte le petit Trianon que le roi fit édifier par Gabriel pour sa maîtresse, Madame de Pompadour. Ce bâtiment carré, dont les façades sont toutes différentes, possède un volume simple et épuré de style néoclassique. Plus que le souvenir de Madame de Pompadour, c'est celui de Marie-Antoinette que conserve ce lieu. Dès son avènement, en 1774, Louis XVI le lui offre en ces termes.
« Vous aimez les fleurs, j'ai un bouquet à vous offrir. »
La reine, qui n'aime guère la vie de cour, s'y réfugie souvent. Elle fait détruire le jardin botanique dont les plantes rares sont transportées à Paris dans le jardin du roi, actuel jardin des plantes. L'architecte Mick et le peintre Hubert Robert y créent à la place un parc à l'anglaise. Mick élève aussi pour elle le temple de l'amour, qu'elle peut admirer depuis les fenêtres de sa chambre, ainsi qu'un petit théâtre et le hameau de la reine, situé à l'extrémité du domaine de Trianon. Les tableaux de la galerie des Cotels, que vous avez pu voir en visitant le Grand Trianon, représentent les 14 bosquets de Versailles tels qu'ils furent créés au XVIIe siècle. Conçus par André Le Nôtre, ces petits jardins clos par des treillages ou des palissades de verdure sont dissimulés dans les espaces boisés que délimitent les allées. Tous différents, ils apportent surprise et fantaisie à l'intérieur du grand jardin. Vases et statues antiques et contemporains, arbres rares, fontaines jaillissantes, cascades ou miroirs d'eau, tout était conçu pour l'émerveillement. Les courtisans s'y rendaient pour la collation, la danse, la musique, le théâtre ou le jeu. La plupart de ces bosquets existent encore. Nous vous invitons à franchir leurs grilles lors de votre promenade dans les jardins. À l'intérieur de ces salons de plein air, mais aussi des allées, le long des perspectives et des terrasses, plus de 200 sculptures agrémentent les jardins et font de Versailles un immense musée en plein air, qui offre aux visiteurs qui s'attardent tout un monde de pierre, de marbre, de plomb et de bronze. Un grand nombre de statues et de groupes a été exécuté d'après les dessins de Charles Lebrun, premier peintre de Louis XIV. Les sculptures représentent les dieux et les héros de l'Antiquité et ont été réalisées par les meilleurs artistes du temps. Girardon, Regnaudin, les frères Marcy, Le Hongre, Tuby ou Coysevaux.
Sur votre gauche, le bassin de Neptune. Et sur votre droite, le bassin du dragon. Si le jet du bassin du dragon est le plus haut du parc, ceux du bassin de Neptune prennent des formes variées et étonnantes. Vous pouvez les voir lors des grandes eaux durant lesquelles 5 à 8 000 mètres cubes d'eau jaillissent chaque jour des fontaines. Les fêtes de nuit restituent un autre enchantement qui évoque les illuminations offertes par Louis XIV à sa cour lors de grandes fêtes. Pour connaître les dates de ces manifestations qui ont lieu chaque année en été, nous vous invitons à vous renseigner auprès des services du château. Nous vous conseillons également, lors de votre visite dans les jardins, de suivre l'allée d'eau située derrière le bassin du dragon pour remonter vers le château en direction de l'orangerie. Vous y verrez, tout en haut de l'allée, la fontaine de la pyramide, œuvre de Girardon. En contrebas, un autre chef-d'œuvre du sculpteur préféré de Louis XIV, qui représente le bain des nymphes. Lorsque les eaux jouent, leur nudité est dissimulée par l'eau qui tombe en nappe devant le bas-relief. Comme partout à Versailles, l'eau dévoile un secret, exprime une idée ou un sentiment. Ici, il s'agit de la pudeur. Et voilà, notre promenade est bientôt terminée et nous espérons qu'elle a été pour vous une expérience agréable et enrichissante.